Morning Edition from NPR News.
Let me teach some people how to eat.
France Inter, le 18-20.
Étonnant Carlos Ghosn, qui a donc parlé très longuement, qui a voulu être très argumenté. Il lâche des noms aussi, il a donné des détails. Il faut faire le tri dans tout ce qu'on a entendu et ce qu'on fera avec notre premier invité. Et ce soir, le bruit du monde est en Tunisie. Ça va nous changer intégralement d'ambiance. On parlera vélo, figurez-vous. Le bruit du monde, la suite, c'est Amélie Perrier qui a vu la danse d'Elon Musk et donne des nouvelles de Michelle Obama. 18h50, le monde en VO qui nous renvoie au Japon avec les enfants du temps qu'a vu Corinne Pellissier. C'est un énorme carton au Japon. 18h55, le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Les États-Unis et l'Iran ne veulent pas la guerre, nous dira-t-il. Mais pour combien de temps? Le monde est vaste. Et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Et bonsoir à vous, Yann Rousseau. Vous êtes journaliste aux Échos. Vous suivez l'affaire Ghosn depuis le début au Japon où vous habitez. Vous avez écrit La Chute, les secrets de Carlos Ghosn. C'est apparaître chez Stock au tout début du mois de février, donc dans quelques jours. Je précise que vous êtes à Beyrouth, mais que vous n'avez pas été sélectionné parmi les journalistes qui ont pu assister à cette conférence de presse. Yann Rousseau, que vous avez évidemment suivi tout de même. Moi, j'ai d'abord une curiosité parce que vous l'avez déjà vu, ce monsieur. Vous l'avez même visité en prison. Vous aviez été l'un des rares. Comment vous l'avez trouvé? Est-ce que vous l'avez trouvé au fond fidèle au personnage qu'il veut renvoyer ou qu'il était avant, ce Carlos Ghosn?
Il était extrêmement différent du Carlos Ghosn, très contenu, très lissé, sans émotion qu'on a connu pendant toutes ces années chez Renault et Nissan. Il était extrêmement différent, c'était un peu un animal blessé, c'est-à-dire qu'il avait accumulé 13 mois de frustration, de colère, de haine, de rage, et tout est sorti pendant 2h30, et de manière même un peu confuse parfois. Je pense que c'est très difficile à suivre pour des gens qui sont pas des spécialistes de l'affaire, parce qu'il avait tellement de choses à dénoncer, à dire, à raconter, que ça partait un peu dans tous les sens, et il était très différent, il était parfois rouge de colère, parfois ému. C'est pas du tout le Carlos Ghosn, vous savez, extrêmement policé froid qu'on a connu pendant les 17 ans où il était le patron de Renault Nissan.
Et alors c'est vrai que c'était impressionnant de le voir faire. Au fond, il aurait pu se limité dans le temps, il ne l'a pas fait, ça a duré 2h30, il a jonglé avec l'anglais, avec le français, avec l'arabe, avec le portugais, ce qui est aussi une manière de montrer qu'il peut déployer tout cela pour se battre. C'est même lui qui appelait les questions. C'est vrai aussi que par moments, il a pu perdre le public qu'il avait en face de lui. Est-ce que les arguments qui ont été les siens, on va rentrer un tout petit peu dans le détail, sont des arguments que vous connaissiez et dont on savait qu'il allait les utiliser ce soir?
Oui, on aurait pu écrire le fil de cette conférence à l'avance. Je l'ai peut-être même fait un peu hier dans les Échos, c'est-à-dire qu'il y avait aucune surprise. Il est toujours sur la même ligne depuis le début. Il dit qu'en gros, il est victime d'un grand complot moitié politique, moitié industriel, qui serait une alliance de gens qu'il a qualifiés de sans scrupules et vindicatifs. Une poignée de gens chez Nissan, selon lui, des anciens dirigeants, et quelques hauts fonctionnaires, et tous ces gens se seraient alliés pour le faire chuter parce que il aurait préparé en secret une fusion ou un rapprochement capitalistique entre Renault et Nissan, et les Japonais n'auraient pas voulu que Renault se rapproche encore du groupe ou que l'État français ait son mot à dire sur Nissan, et donc ils auraient monté ce grand complot. Il a dit exactement ça, il l'avait dit quand moi je l'avais vu en prison, c'était il y a un an déjà, il nous avait déjà dit exactement ça. Il n'y a pas vraiment de nouveauté.
Ce qui était impressionnant, c'était la force de la charge quand même. Donc vous le disiez, effectivement, double charge à la fois contre Nissan, mais aussi contre le système judiciaire japonais, une espèce de collusion entre le procureur et Nissan. Au fond, il n'y a que l'État japonais qui l'épargne, et je pense qu'il le fait là pour d'autres raisons. Est-ce qu'il avait été aussi vindicatif, y compris en donnant des noms? Il a lâché des noms, ce qui est quand même assez impressionnant, voire assez grave d'ailleurs, non?
Alors, ces noms, on les connaissait parce que quand il y avait eu une première vidéo, vous savez, quand il a été réarrêté, il avait enregistré un petit message vidéo et il avait donné ces noms. Sauf que ses avocats, qui voulaient pas de problème, avaient effacé le son de la bande. Donc, on voyait Carlos Ghosn parler comme ça dans le silence, un peu comme un poisson cherchant l'air. Mais nous, à Tokyo, on connaissait très bien les gens qui l'accusaient. C'était le CEO de l'époque de Nissan, Sakawa, plus les gens qui avaient lancé l'enquête contre lui. Donc, c'est des gens qu'on connaissait. On savait que c'était eux qui visaient, on savait que les gens de son entourage les dénonçaient. Donc il y avait pas, oui, les noms, il les lâche au public pour la première fois, mais dans l'entourage, dans les gens qui suivent ça, on savait les noms qu'il allait donner.
Est-ce que vous avez...
Il n'y a pas de nouveauté dans les gens qu'il a accusés aujourd'hui.
Vous avez le sentiment qu'il se défend ou qu'il règle ses comptes? Alors la limite peut être parfois un peu ténue, mais sachant qu'il n'est plus accessible à la justice aujourd'hui, en tout cas en l'état, il se défend ou il règle ses comptes, là, Carlos Ghosn?
Il veut faire les deux. Le problème, c'est qu'il le fait pas. Il ne va pas vraiment dans les détails des mises en examen qui ont été lancées contre lui au Japon. Il y a deux affaires. Il y a l'affaire judiciaire au Japon, les quatre mises en examen, et puis il y a toutes les autres accusations, les Versailles, les maisons. Ça, ce n'est pas dans une procédure judiciaire nulle part. Il n'est pas mis en examen nulle part pour ça. Et aujourd'hui, il voulait répondre à tout, et il a été imprécis sur tout, et notamment sur les accusations japonaises. Il s'est pas aventuré dans les choses qui sont très compliquées, qui sont des dossiers financiers, notamment ce qu'on appelle la route d'Oman, l'argent qu'il aurait touché. Il a passé aujourd'hui 45 secondes dessus, et c'était incompréhensible pour quelqu'un qui n'aurait pas planché sur les dossiers depuis un an. Donc, il avait beaucoup envie de dire. J'imagine qu'il va, dans les prochains jours, essayer d'aller dans le détail et répondre aux accusations. Mais il était à mi-chemin entre la revanche, la vengeance, et puis le début d'une explication de son innocence.
Mais il dit qu'il a des papiers à fournir, il l'a dit à un moment, qu'il les fournirait d'ailleurs peut-être dès ce soir ou peut-être demain. Ça veut dire que, est-ce que selon vous, ça fait partie aussi de ce système de défense et de ce moment d'attaque qui est le sien? Donc il y a aussi derrière une espèce de forme de bluff, ou est-ce qu'il y a effectivement, selon vous, des papiers, des preuves, des choses qui sont une vraie base de défense pour lui ou pas?
Lui, il a eu accès à une petite partie du dossier japonais. C'est-à-dire que les procureurs ne donnent à la défense que les pièces qu'ils vont utiliser lors du procès. S'il y a des pièces qui sont défavorables à l'accusation, ils ne les montrent pas. Donc, Carlos Ghosn, il ne peut travailler que sur une petite partie des pièces que lui ont donné les procureurs. Et il les a emmenées avec lui. Il avait des copies. Enfin, voilà. Donc, il a ces éléments-là. Et ensuite, il a ses propres emails, ses propres écrits du passé qu'il peut ressortir. Le problème, c'est qu'il va lui aussi utiliser seulement les documents qui lui sont favorables. Il va pas pouvoir démontrer. On va pas faire un procès de Carlos Ghosn comme ça devant la presse. C'est pas possible. On est sur 250 000 pages de documents. Donc, ça va pas le faire. Lui va servir des lettres qui pensent qu'il le disculpe, mais il y aura jamais de confrontation avec l'opposant, le parquet japonais, qui lui a des tas de lettres qui l'accusent.
Il a évoqué, effectivement, vous le disiez, il a évoqué de loin, de manière assez, avec beaucoup de légèreté, en fait. Je sais pas si c'est ce que vous avez ressenti aussi, son histoire de dîner somptuaire à Versailles, ou des choses comme ça qui sont là, pour le coup, dans un autre personnage, Carlos Ghosn. Il dit que si un juge français le convoquait, il viendrait, bien sûr, puisque ce qu'il veut, c'est être jugé de manière équitable. Encore une fois, est-ce que, là aussi, selon vous, on est dans une forme de bluff? Est-ce qu'il prendrait ce risque, Carlos Ghosn, que de venir en France pour répondre à des accusations, puisqu'il y a des enquêtes ouvertes par le parquet financier?
Alors, il n'est pas mis en examen en France, donc pour l'instant, la question se pose pas. Ce qu'il va faire, Carlos Ghosn, c'est essayer de s'organiser un procès au Liban. C'est ça qu'il va faire. Il y a une procédure qui existe de compétence personnelle, ça s'appelle. C'est-à-dire que le Japon peut essayer de demander une extradition de Carlos Ghosn. Elle va être automatiquement refusée. Le Liban n'extradit jamais ses ressortissants. Et ensuite, le Liban peut recevoir une demande de procédure judiciaire du Japon. C'est-à-dire que le Japon dit « on vous envoie tous les documents qui ont constitué les mises en examen et vous le jugez au Liban ». Mais c'est-à-dire que tous les documents sont donnés à un procureur libanais qui les regarde et qui regarde s'il y a une violation de la loi libanaise et qui décide si on fait oui ou non un procès. Et donc, ça serait beaucoup plus favorable à Carlos Ghosn. Il n'irait jamais en prison s'il y avait cette procédure. Et il pourrait dire « regardez, la justice, c'est au Liban, mais la justice m'a lavé de tout soupçon, je suis innocent ». Donc je pense que c'est ça qu'il va essayer de faire dans les prochains mois, et c'est possible, à moins que le Japon voit le piège, si je puis dire, et refuse cette procédure.
C'est ce qu'il veut faire, lui, maintenant, et y compris la justice libanaise. D'ailleurs, est-ce qu'elle serait favorable à rentrer dans ce genre de procédure ou pas?
La justice libanaise, elle est très politique. On n'a pas une justice extrêmement indépendante. Vous savez qu'elle est très clanique, elle est liée aux confessions. Et donc, il est possible de trouver des juges qui valideraient ça s'il y a une pression du politique. Monsieur Ghosn n'a pas un immense soutien dans la population libanaise, surtout en ce moment, quand on est dans une crise extrêmement profonde. Mais il y a une partie des élites qui le soutiennent, et il est proche du président Aoun, du président actuel. Et donc, je pense que c'est possible qu'il y ait une pression politique pour monter un procès comme ça, un procès qui lui serait sûrement plus favorable.
Yann Rousseau, quand il parle d'un système japonais vicié, enfin toute l'introduction de cette conférence de presse a été une charge extrêmement violente contre le système judiciaire japonais. Je n'ai pas fui la justice, j'ai fui l'injustice, otage du Japon, etc. Comment le Japon peut-il recevoir des accusations de ce type ? En a-t-il d'ailleurs jamais reçu d'une telle force ? Et comment le reçoit-il aujourd'hui ?
Alors, l'opinion, alors le Japon, les autorités japonaises sont assez embêtées de remettre ça sur la table, mais ça fait maintenant un an et demi qu'on les accuse d'être des monstres, d'avoir un système judiciaire japonais moyenâgeux. Bon, l'opinion publique, elle se pose pas la question, si vous voulez, dans la fuite de Carlos Ghosn. Pour le peuple japonais, pour la population, c'est la signature de sa culpabilité. Et ce qui émerge, c'est l'absence de... on va pas dans un débat de libéralisation du système. Ce qui se passe au Japon aujourd'hui, c'est que les conservateurs disent « Regardez, un, il s'est enfui parce qu'on a été trop doux. Et donc, il faut durcir le système. » C'est exactement l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire que beaucoup de gens avaient parié sur le procès Ghosn et le cas Ghosn, dont tous les médias étrangers parlaient, pour forcer le gouvernement à changer certaines choses. Autoriser un avocat lors des interrogatoires, raccourcir les détentions préventives, ainsi de suite. Eh bien, c'est exactement l'inverse qui va se passer, puisque il démontre en fuyant qu'il avait il était peut-être coupable et qu'on n'aurait donc jamais dû le libérer et que donc le système a été trop clément. Donc on va aller vers un mouvement exactement inverse à ce qu'on pourrait imaginer. Et beaucoup de gens qui avaient parié sur lui en sont très déçus. Il y avait un Français qui s'appelle Marc Carpelez qui a fait de la prison au Japon, de la détention provisoire. Il était mis aussi en examen sur plusieurs choses. Et lui, tout seul, avec une toute petite équipe d'avocats, il a défait le système japonais, il a réussi à démonter toutes les charges et il a gagné, il est plus accusé que d'une seule chose et il va probablement gagner en appel. Et il a montré que c'était possible de s'en sortir et il espérait, lui comme d'autres, que Carlos Ghosn, avec ses équipes d'avocats, ses moyens énormes, allait faire un pied de nez au système et ça n'aura pas lieu puisque Carlos Ghosn abandonne le combat et s'en va.
Deux petites dernières questions. J'ai des droits vis-à-vis de Renault et de Nissan et je compte les réclamer. C'est ce qu'il a dit aussi lors de sa conférence de presse. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire qu'il pense qu'ils ont rompu ces contrats de manière illégale et qu'il va essayer de récupérer.
Ça veut dire qu'il va essayer de récupérer de l'argent. C'est ça que ça veut dire en fait. Ça veut dire qu'il va essayer de récupérer de l'argent en fait.
Probablement.
Il a été relativement discret. Alors peut-être qu'on en saura un peu plus nous dans le journal de 19h dans un instant grâce à la SLMA. Mais il a été relativement discret sur les conditions de son évasion. Très honnêtement, est-ce qu'on saura un jour réellement quelles ont été les réelles conditions de l'évasion du Japon de Carlos Ghosn ?
Bon, il peut pas parler parce qu'il y a des gens à protéger, la société qu'il a employée qui lui a coûté très cher, les gens qui ont donné le top départ, les gens qui ont passé le message au Japon pour communiquer, faire le lien entre lui et les équipes d'exfiltration. Donc c'est normal qu'il n'en parle pas et je pense qu'il ne va pas briser silence. Mais on n'est pas très loin de la vérité. Il y a eu un gros travail des médias, notamment japonais, qui ont des infos avec la police. On sait à peu près le parcours qu'il y a eu. Il n'y a plus beaucoup de mystère sur la fuite.
Yann Rousseau, on va essayer de voir ce qui va se passer effectivement derrière et comment il continuera à se défendre. Selon vous, qu'est-ce que ça devient un Carlos Ghosn quand on a été un patron de cette hauteur-là, une fois au Liban, donc en situation de fugitif, qu'il le veuille ou non, c'est comme ça que ça s'appelle. Est-ce que c'est quelqu'un qui va rester là-bas et puis ne plus rien faire, vivre dans sa résidence ou se mettre à la disposition du gouvernement ou d'autres choses? Comment est-ce que vous imaginez, vous, le futur d'un personnage de ce calibre-là?
Je pense pas qu'il ait le moindre futur politique au Liban, c'est-à-dire qu'il y a une grosse crise aujourd'hui au Liban, et il représente tout ce que la jeunesse dans la rue aborde, c'est-à-dire les élites qui se protègent, qui échappent à la justice, la corruption, qu'il soit coupable ou non, on ne sait pas. Mais c'est ce qu'il incarne pour les jeunes dans la rue qui font la révolution depuis la fin de l'année dernière. Donc il n'a pas, aujourd'hui, personne ne va oser l'appeler pour lui confier un poste de ministre ou ministre des Finances. En plus, le ministre des Finances, vous savez, ici, c'est confessionnel, c'est des chiites, donc il n'a aucune chance de l'avoir. Donc, il n'aura pas de carrière politique au Liban. Il n'est pas vu comme un héros, comme c'est pas l'homme prodigue. Il rêvait, lui, avant, après sa retraite, de faire le grand circuit des conférences internationales, Davos, les écoles de commerce, Stanford, c'est ça qu'il voulait. Ça va être très compliqué, il y aura plein de pays qui sont interdits, mais il pourra encore aller au Brésil, en France et au Liban, donc j'imagine qu'il va avoir une vie beaucoup plus discrète. Il va se battre pour... Il y a encore plein de procès dans plein de pays, Carlos Ghosn, c'est pas fini. Nissan a promis de lui faire payer toutes les sommes qu'il lui reproche, donc il y aura des procès dans tous les pays, dans plein de pays. Donc il va avoir cette vie compliquée dans les premières années, mais je pense qu'il aura une vie beaucoup plus discrète que ce qu'il avait envisagé.
Merci mille fois, merci beaucoup Yann Rousseau, on va revenir sur ça cette conférence de presse tout à l'heure dans le journal de 19h, notamment grâce à l'interview que Léa Salamé a pu réaliser juste après, avec peut-être quelques précisions notamment sur cette évasion. Et je rappelle, Yann Rousson, que vous avez écrit La Chute, les secrets de Carlos Ghosn avec Régis Arnaud. C'est publié chez Stock et ça sort précisément le 5 février prochain. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saintès sur France Inter.
La suite d'un jour dans le monde ce soir, c'est le bruit du monde, ça va vraiment nous changer. On va parler de bicyclette à Tunis, figurez-vous. Le bruit du monde, la suite, et Amélie Perrier avec un petit pas de danse peut-être.
Oui, parce qu'on va parler voiture électrique en Chine. C'est le pas de danse très gênant d'Elon Musk, le patron de Tesla.
Le cinéma en VO, Corinne Pellissier, vous nous ramenez au Japon.
Exactement, une ville de Tokyo plongée sous l'eau. Jusqu'à l'apocalypse, prophétie, fiction, à voir. C'est le très beau film d'animation de Makoto Shinkai sur les changements climatiques.
Dont vous nous parlerez dans un instant. Le monde à l'envers, Jean-Marc Faux.
Salutations.
Bonsoir. Ni l'Iran, ni les États-Unis ne veulent la guerre, Jean-Marc, apparemment. Mais enfin, combien de temps ça peut tenir
cette affaire? Oui, c'est ça, ça veut pas dire, ils en veulent pas, mais ça veut pas dire que ça n'aura pas lieu.
Allez, tiens, tout de suite, tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par Brooklyn, New York, de Big Fish. La chanson s'appelle Notes et c'est sur la playlist d'Inter. Vous les entendez, les vélos derrière moi, là? Eh bien, le bruit du monde, ce soir, est à Tunis. Et puisque vous êtes nombreux à découvrir ou redécouvrir le vélo à Paris en ce moment, nous avons voulu aller voir ailleurs, eh bien, à Tunis. Croyez-moi, les risques sont bien là. Même s'il y a 2 millions de cyclistes, rien n'est fait pour la circulation des vélos. Il n'y a pas de piste. Les automobilistes sont en terrain conquis. Bref, c'est pas simple. Même si une association essaye d'y mettre du cœur et aussi de l'énergie, et c'est Stéphanie Wenger qui nous raconte.
À Tunis, il est difficile de circuler en voiture, surtout aux heures de pointe. Dès qu'il pleut, impossible de trouver un taxi. Alors ils sont de plus en plus nombreux à tenter le vélo. Pas de piste cyclable et sur la route, c'est un peu la jungle. Mais depuis plus de 2 ans, une association, Vélorution, essaye de changer les esprits et les habitudes. Mahmoud l'a rejointe dès le début.
Je fais du vélo maintenant depuis presque 3 ans, régulièrement, tous les jours. Je fais un grand trajet de presque 16 km aller et 16 km retour.
Le vélo représente un gain de temps considérable pour ce photographe qui fait le compte.
Mon vélo 35 minutes. Avec l'embouteillage en taxi, ça peut être 50 minutes, 1 heure. En transport, c'est entre 1h30 et 2h. Il n'y a pas de transport public respectueux et ponctuel. Alors on doit avoir une association comme Vélorution pour promouvoir la culture du vélo. Deuxième point, c'est une question écologique. En diminuant le nombre de voitures, on peut avoir de l'air moins pollué.
Les militants de Vélorussion n'ont pas peur des défis. Ils ont posé leur QG dans un quartier très passant de Tunis, là où la voiture est reine. Et là, c'est l'heure de pointe. Anis est un autre mordu de vélo, il nous accueille.
Ça, c'est Dal-Bisklet. C'est la maison du vélo en arabe.
L'équipier organise des réunions autour du vélo et met à disposition un atelier. Autour de nous, un établi, des outils et des bicyclettes de couleur vive.
C'est notre petit atelier. On a 6 vélos tandem pour les non-voyants, quoi, pour faire des tours aux non-voyants. Ça, tout le monde a accès au vélo, quoi. Et ça, c'est pour les vélos dans les régions. Ça, c'est un grand projet. Initier les élèves à prendre le vélo pour aller à l'école. En moyenne, ils font 2 km pour aller à l'école. Donc, de préférence, aller en vélo, c'est plus vite et c'est bien pour leur santé. Et en plus, c'est agréable, quoi, le vélo. Voilà.
L'association a réussi aussi à installer des parcs à vélo à Tunis. Depuis quelques semaines, la ville en compte une dizaine. Et les usagers apprécient de pouvoir attacher leur monture en toute sécurité, comme Walid, rencontré au terminus du métro de l'Ariane.
Donc là, vous arrivez au parking, vous laissez le vélo ici, et après ?
Je travaille, puis je retourne, je prends mon vélo, je retourne à la maison.
Combien de temps pour venir au travail en vélo ?
10 minutes, 15 minutes. C'est mieux que la voiture et pour la circulation aussi. Physiquement, c'est mieux. Quand tu fais une demi-heure avec le vélo, ça me rafraîchit le corps et les jambes aussi.
Kauter, 27 ans, militante de l'association, travaille dans un centre d'appel. Depuis qu'elle s'y rend à vélo, elle a réussi à convaincre une trentaine de collègues de faire pareil. Elle revient sur sa passion du vélo, pas évident à vivre partout quand on est une fille.
Moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir un père compréhensif en moi au côté vélo. Donc, il m'a toujours offert des vélos, comme j'ai dit tout à l'heure. En plus, c'est une facilité pour lui parce que lui, il a un restaurant et moi, je l'aide à faire ses courses à vélo. Donc, c'était une facilité pour lui, une passion pour moi. Et en plus, moi, j'habite dans un quartier, ce qu'on appelle traditionnel, très traditionnel. C'est pas comme les quartiers chics là-bas. On peut trouver quand même des filles qui font du vélo ou autre. Mais en plus, il y a des femmes qui disent que non, je suis un peu grosse, je ne peux pas faire du vélo.
Kauter est très investi dans l'association, notamment dans la vélo-école qui, tous les dimanches, initie ou réhabitue à la bicyclette un public très varié.
Une fois, j'ai eu une femme, c'était mon élève préférée. Elle m'a dit, je m'en fous si je tombe, je m'en fous si ça va prendre plus que 6 séances, ou bien si vous allez demander plus d'argent, ou bien je ne sais pas, je m'en fous de ce que vous allez demander, je veux apprendre à faire du vélo. Parce que c'était mon rêve de petite fille. Pour elle, c'était vraiment magnifique. Une fille lui a appris à faire du vélo et en plus c'était son rêve de jeune fille.
À Tunis, il y a encore beaucoup à faire, surtout du point de vue des infrastructures, mais les esprits évoluent. Les plans d'urbanisme des nouveaux quartiers doivent désormais prévoir des pistes cyclables.
Et ben voilà, ça commence à rentrer partout. Stéphanie Wenger sur son volet à Tunis. Merci beaucoup Stéphanie. Le bruit du monde, la suite, c'est Amélie Perrier que voici. Et lorsqu'on entend, Amélie, là, c'est donc une musique. Hein.
Oui, oui, oui.
Devant, il y a un monsieur qui danse.
Effectivement.
Et c'est l'un des patrons les plus puissants de la planète.
C'est une danse plutôt gênante. Hein. C'est très maladroit. Et c'est une danse d'Elon Musk, le patron de Tesla. Son talent, lui, c'est vraiment plus les voitures électriques de luxe. Danse de la joie pour célébrer la sortie des premiers véhicules fabriqués en Chine. La toute première fournée vient d'être livrée dans la méga-usine de Shanghai. Ces voitures ont été livrées à des employés qui avaient passé commande des Model 3. C'est l'entrée de gamme chez Tesla. La Model 3 coûte quand même l'équivalent de 46 000 euros. Et le groupe américain a bien l'intention d'envahir massivement le marché chinois. À terme, 3 000 véhicules pourraient sortir chaque semaine des chaînes de montage chinoises. Cette usine de Shanghai, elle a été inaugurée il y a un an. À l'origine, elle a été pensée pour contourner la guerre commerciale que se livrent les États-Unis États-Unis et la Chine, à coup de surtaxes douanières sur les produits importés de chaque côté. Le but, c'est aussi de conquérir le plus vaste marché au monde de voitures électriques. Et voilà Elon Musk qui dit « Je crois que ce serait super cool, et on va le faire d'ailleurs, de créer un centre d'ingénierie et de design en Chine pour dessiner une voiture originale en Chine pour la consommation mondiale. Ça va être très excitant. Je crois que la Chine possède parmi les plus beaux arts du monde. » Ouais, voilà, il sait comment conquérir son public, Elon Musk. Hein. Il les flatte, les Chinois. Et Tesla, l'américaine, bénéficie effectivement d'un traitement de faveur assez remarquable en Chine, là où d'habitude Pékin impose aux groupes étrangers de nouer des alliances avec une entreprise locale pour s'installer sur le sol chinois. Là, Tesla détient la totalité de l'usine de Shanghai. Les autorités ont même accordé une exonération de taxes pour les acheteurs de Tesla made in China et une subvention.
À Moscou, Amélie, des médecins démissionnent.
Et c'est très révélateur des défaillances du système de santé en Russie. Je vous parle ce soir d'un service de cancérologie pour enfants dans la capitale, le centre d'oncologie Blokhin, un énorme bâtiment gris des années 70. Blokhin que les patients et leurs familles ont rebaptisé Blokhinwald, en référence à Buchenwald, le camp en Asie, tant les locaux sont dégradés. Pas de ventilation, des murs moisis, des chambres surpeuplées. Une vingtaine de médecins viennent de poser leur démission pour dénoncer des conditions de soins monstrueuses, disent-ils. Écoutez le docteur Dolgopolov au micro de l'AFP. Ma décision de quitter ce centre où j'ai travaillé 22 ans, dit le chirurgien, pour changer de lieu de travail, est due au fait que mes idées sur la moralité et l'éthique, sur ce qui est bon ou mauvais, ne coïncident pas avec la direction de l'institut. Car au-delà des bâtiments en ruine, il n'est pas rare en Russie de devoir verser un pot de vin pour bénéficier d'un service public. Les moyens des hôpitaux n'ont cessé d'être amputés depuis la chute de l'URSS. L'État ne finance par exemple plus toutes les greffes. Ces médecins démissionnaires ont alors monté des fondations privées pour pouvoir payer ces greffes à des patients démunis. Ils ont été accusés de détournement et d'enrichissement personnel et finalement ils ont été blanchis. Ce qui fait le plus peur aux patients aujourd'hui, ce sont les changements de protocole. Des médicaments étrangers ont été remplacés par des produits russes, moins chers. Moscou veut encourager son industrie pharmaceutique, la préférence nationale dans le médical. Oui mais voilà, le mois dernier, deux adolescents sont morts après un changement de traitement. Et l'Institut Blokhin n'est pas un cas isolé. Sous prétexte d'optimiser le secteur de la santé, les hôpitaux russes dans les campagnes sont fermées et de nouveaux, très sophistiqués, sont construits dans les villes. Les cliniques privées chères ne s'adressent qu'aux plus riches. Et dans ce pays immense, il faut souvent faire 200 km pour être soigné. Selon un chiffre de l'OCDE, la Russie consacre seulement 3% de son PIB aux dépenses de santé. 3% contre près de 10% en France ou en Allemagne. Le président Poutine a promis récemment d'investir des milliards dans les années à venir. Les médecins, les soignants et les étudiants en médecine n'y croient plus beaucoup.
Allez, on termine avec des nouvelles de Michelle Obama.
Et oui, après une tournée mondiale et bien triomphale pour son livre Becoming, vendu à des millions d'exemplaires, l'ex-première dame débarque sur Instagram.
My name is Regan Dunn.
My name is Hasib.
Lynette Delgado.
Robert Booker.
Each of them has overcome tremendous. Alors
vous avez entendu des jeunes, et là c'est Michelle Obama qui nous explique que sur son Instagram TV, elle va suivre le parcours de ses étudiants, partager les hauts et les bas de leur première année. Les jeunes sont blancs, noirs, latinos, toute la diversité des États-Unis. Ils ont traversé pas mal d'épreuves pour arriver jusqu'à l'université, nous dit Michelle Obama. Le but, en fait, c'est d'inspirer d'autres jeunes, d'inciter même ceux issus des milieux les plus défavorisés, les encourager à faire des études comme elle. Une autre manière donc de faire de la politique. Instagram, ça sert à ça aussi.
Voilà. Michelle Obama, telle qu'en elle-même. Merci beaucoup, Amélie Perrier. On se retrouve demain. Tiens, direction une ville appelée Malice, figurez-vous. A Town Called Malice, c'est The Jam et c'est sur France Inter.
Town Called Malice sur France Inter. Les jams, tiens, ça nous a bien fait danser en studio, surtout Corinne Pellissier, je veux dire.
France Inter. Un jour dans le monde.
Bon, c'est un film d'animation, hein, Corinne Pellissier, on va pas se mentir, c'est ce qu'on entend bien. Le réalisateur s'appelle Makoto Shinkai. Le film s'appelle Les Enfants du Temps, Weathering with You, en anglais, le thème de l'environnement, des changements climatiques, etc. Mais 9 millions d'entrées au Japon, un carton monumental, même le Roi Lion a pas pu faire mieux. Un ticket pour les Oscars aussi, une popularité qui permet tout aujourd'hui, y compris d'ailleurs de montrer Tokyo sous un jour qui est pas franchement kawaii comme on dit, c'est-à-dire pas mignon, pas sympa.
Exactement, voilà, une ville grise, sale, dangereuse, plongée sous des trombes d'eau. Une œuvre assez sombre sur un monde qui est devenu fou à travers l'histoire d'un ado fugueur débarqué à Tokyo, sans travail, sans argent, et qui va se retrouver confronté à tout un tas de bouleversements dont il n'avait jusqu'ici pas tellement conscience. Makoto Shinkai nous parle dans ce film de précarité, de bouleversements climatiques, ce sont des sujets dans l'air du temps, qui ont inspiré au réalisateur un scénario pas très réjouissant, mais assez crédible. Fiction ou prophétie, ce sera à nous de voir. Le message en tout cas de Makoto Shinkai est très clair.
Pour moi, ce qui est le plus important avant tout, c'est de réaliser des films de divertissement. Mais en même temps, je veux que quelque chose reste dans l'esprit des spectateurs. Depuis quelque temps, nous connaissons beaucoup de catastrophes naturelles, mais notamment des eaux. Bien sûr, je suis en colère, mais en même temps, je suis très conscient que moi-même, je participe à ces dégâts. Nous, les adultes, en fait, on aurait dû assumer nous-mêmes notre responsabilité, mais nous n'avons pas fait. Et donc, les jeunes sont obligés d'assumer à notre place cette responsabilité. De ce point de vue, je peux dire que les jeunes d'aujourd'hui sont en tout cas sacrifiés. Mais par rapport à, par exemple, à Tokyo qui est plongé dans l'eau, il y a plusieurs personnes donc, qui sont justement pas d'avis que sont les êtres humains qui ont causé ce problème. Par exemple, un personnage dit que de toute façon, la ville de Tokyo était sous l'eau autrefois. Il y en a un qui dit qu'il y a, enfin, par rapport à la météo, il n'y a rien de normal ni d'anormal et que ce genre de changement climatique arrive très régulièrement dans l'histoire de l'univers.
Voilà, un très bon observateur de la jeunesse aussi.
Exactement, on l'avait découvert il y a 3 ans avec le film Your Name qui avait raconté déjà l'histoire de 2 adolescents après Fukushima. Énorme succès, 19 millions d'entrées, deuxième film d'animation japonais le plus vu derrière Le Voyage de Chihiro de Miyazaki. Ce n'est pas rien, Makoto Shinkai a un talent, c'est sûr, pour soigner à la fois l'animation, le récit, mélanger le fantastique et le réel, la modernité et la tradition. Les enfants du temps aujourd'hui vont emprunter autant à Greta Thunberg qu'aux croyances Shinto avec l'introduction d'un personnage qui aura le pouvoir de dissiper la pluie, une prêtresse du temps venue sauver le monde en échange d'un énorme sacrifice. Voilà, on n'en dit pas plus. Mm-hmm. Dimension quasi christique, mais façon originale et efficace d'aborder ce sujet des catastrophes climatiques.
Et ben voilà, donc on retient le nom du réalisateur qui s'appelle Makoto Shinkai. Les Enfants du Temps, c'est au cinéma ce mercredi, c'est un film inter.
Exactement.
Et merci à vous Corinne Pellissier.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, escalade, c'est le mot prononcé ce matin par tous les diplomates pour qualifier les tirs de missiles iraniens contre des bases américaines en Irak. La crainte, c'est désormais une guerre directe entre Washington et Téhéran, mais cette hypothèse vous semble improbable et c'est votre monde à l'envers.
Oui, j'ai un argument massu. Hein. Les deux capitales ne veulent pas d'une guerre directe. C'était bien ce qui était implicite d'ailleurs dans les propos de Donald Trump il y a une heure. Le plus logique, c'est donc une guerre par procuration sur des terrains tiers et c'est exactement ce qui se produit pour l'instant. Les épisodes de ces 5 derniers jours s'inscrivent en fait dans la continuité de ce qui se passe depuis le début de l'année, des affrontements plus indirects que directs. Souvenez-vous, en juin dernier, ces attaques de pétroliers dans le golfe Persique, ou bien en septembre, ces raids de drones contre les installations pétrolières saoudiennes. Le même film se poursuit. un tour au-dessus, c'est vrai, j'en conviens, mais c'est la suite du même scénario. En l'occurrence, le terrain d'affrontement logique, c'est donc l'Irak, puisqu'on y trouve à la fois des soldats américains, un peu plus de 5000, et des miliciens iraniens, là encore plusieurs milliers. Le président irakien a beau dire, comme il l'a fait cet après-midi, qu'il ne veut pas voir son pays se transformer en champ de bataille, c'est quand même ce qui est en train de se produire. Et ce seront dans ce cas les Irakiens, y compris les civils, qui feront les frais de cette guerre par procuration, à coups de riposte graduée, entre guillemets, somme toute d'une portée relative, comme ces frappes iraniennes de ce matin, qui, selon Washington, n'ont donc pas fait de victimes. Les guerres par procuration, soit dit en passant, c'est devenu fréquent. On en a une autre en Libye, par exemple, où Turcs et Qataris s'opposent à Émiratis et Égyptiens par milices libyennes interposées.
Et donc, Jean-Marc, pourquoi Washington et Téhéran n'assumeraient pas une guerre directe et une guerre frontale?
Simplement parce qu'il y a trop d'incertitudes, trop d'aléas, que le risque d'une fracture et d'une facture surtout est trop élevé. Des deux côtés, chacun veut montrer ses muscles pour surtout ne pas apparaître faible aux yeux de sa population, ça c'est vrai, mais c'est tout, pas question d'aller plus loin parce que ça serait trop dangereux pour les Iraniens. Ce serait affronter une force militaire américaine qui leur est bien supérieure. Les États-Unis possèdent dans la région tout autour de l'Iran plus de 20 bases militaires, navales, terrestres et plus encore aériennes. L'Iran est en fait cerné et la puissance de feu de Washington est considérable. Une guerre frontale provoquerait des destructions majeures en Iran et l'économie qui est déjà très mal en point serait mise à genoux. Ce n'est pas un bon calcul. Et le risque est trop élevé aussi sans doute du point de vue des États-Unis parce que l'Iran c'est quand même un client sur le plan militaire. C'est autre chose que l'Irak de Saddam Hussein envahi en 2003. L'Iran ce sont des missiles balistiques potentiellement destructeurs, y compris à moyenne portée près de 1000 km comme sans doute la dernière version Shahab 3. Ce sont des alliés multiples dans la région, on le sait, qui peuvent causer des dégâts non seulement en Irak, on en parlait, mais aussi au Liban, en Syrie, au Yémen, voire au Pakistan. Et c'est aussi, bien sûr, potentiellement à terme, l'arme nucléaire, avec des bases américaines qui sont donc très nombreuses dans la région, mais qui sont donc en même temps autant de cibles. Peu probable que Donald Trump, en pleine campagne électorale pour sa réélection, court le risque de se retrouver à devoir rapatrier des cadavres de boys américains.
Donc on joue à se faire peur, c'est ça l'idée, tout ça c'est de la gesticulation, il n'y aura pas de guerre frontale.
Disons que c'est improbable, à ceci près qu'il y a quand même un paramètre qui peut tout changer, c'est celui qui est assez irrationnel de l'engrenage, vous savez presque la guerre par erreur, par effet d'entraînement. On peut imaginer quelques scénarios, je veux dire de mauvaise limonade, il peut y avoir un accrochage direct dans le détroit d'Ormuz, d'abord entre navires américains et vedettes rapides iraniennes, tout ce petit monde se croise quand même régulièrement à quelques centaines de mètres, une erreur de trajectoire et hop, comme dans un carrefour embouteillé, tôle froissée, ça part en vrille. Il peut aussi y avoir une attaque iranienne, même indirecte, contre Israël, qui ferait que Netanyahou appelle alors son ami Trump, et là encore, ça peut partir en vrille. Ou même une cyberattaque iranienne de grande ampleur contre des intérêts économiques majeurs américains. Ça pourrait entraîner une surréaction de la Maison-Blanche au nom de la défense du business, parce qu'il y a aussi, on le sait, ce facteur, le côté versatile, imprévisible de Trump, et hop, boum. Et puis en face, en Iran, l'assassinat du général Soleimani vient de renforcer les durs du régime, les gardiens de la révolution, leurs moyens financiers déjà considérables vont se voir accrus et les élections législatives prévues le mois prochain en Iran vont sans doute leur être favorables. Donc oui, l'engrenage est aussi possible. Les guerres, on se souvient de la Première Guerre mondiale, peuvent aussi démarrer comme ça.
Jean-Marc Fourré, Le Monde à l'envers. Merci beaucoup Jean-Marc. À demain bien sûr, nous on reste ensemble, ne bougez pas. Dans un instant, c'est le journal de Sarah Guibaudot et puis le téléphone sonne. Merci de partager votre soirée avec nous. À tout de suite.